Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 18h à la radio Adar de Menaka. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les titres. Le concours direct de recrutement de la fonction publique 2023 a été annulé hier par le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Le département l'explique par la découverte d'un vaste réseau de fraude. Au Mali, les enfants s'intéressent de plus en plus aux arts martiaux. Qu'est-ce qui suscite cet engouement? Des détails dans ce journal. Cannes à Côte d'Ivoire 2023, les demi-finales se jouent demain. Pour des observateurs, ces deux demi-finales seront très décisives et on peut s'attendre à des surprises. Juliette Koulibaly est à la présentation. La partie technique est assurée par Salim Djouara. Comme annoncé au sommaire de cette édition, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a annulé le concours direct de recrutement dans la fonction publique 2023. La nouvelle a été annoncée hier 5 février à la télévision nationale. La découverte d'un vaste réseau de fraude est à la base de cette annulation. Pour des juristes, cette décision s'inscrit en droite ligne des aspirations du Malicroix. Du côté des candidats, la décision est diversement appréciée. Plus de détails avec Fatoumata Kodjou.
Des candidats ne cachent pas leur mécontentement suite à cette annulation du concours de la fonction publique. Ils estiment être injustement victimes d'une situation qu'ils n'ont pas créée.
Ça ne m'a pas plu. Je devais avoir la chance pour ce concours. Si ça a été annulé, ça m'a vraiment touché.
En tant que candidat, il y a beaucoup de stress. On n'est pas tranquille vraiment.
D'autres candidats approuvent la décision qui évitera, selon eux, que des fraudeurs passent au détriment de ceux qui les méritent.
Nous qui n'avons pas de moyens pour payer notre ticket de validation, ces efforts que nous allons fournir ne seront pas vains.
Le ministre de la fonction publique a bien fait. Sinon, on allait voir les noms des fraudeurs sur la liste des admis.
Selon le juriste Dr Mamadou Guissé, la bonne organisation d'un concours incombe au ministère des tutelles. Il recommande que l'organisation des concours soit confiée à des personnes intègres.
Il faudrait non seulement rechercher les cadres compétents et qui n'ont jamais participé à quelconque magouille ou fraude, et cela permettrait effectivement d'assainir tous les secteurs de la fonction publique.
Le ministère rassure qu'un concours crédible sera bientôt organisé avec les mêmes listes de candidatures à Bamako et dans les 6 régions concernées. La justice aussi sera saisie pour des enquêtes.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
Les membres du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale ont été installés. La cérémonie de mise en place a été présidée hier par le président de la transition. Composé de 140 membres, son président a promis de capitaliser sur les résolutions passées, de corriger les insuffisances et de produire des résultats qui refléteront les aspirations de tous les Maliens. Sur un tout autre sujet, souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Mali, c'est le thème de la 5e session de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel du Mali. Le président de l'institution appelle à accroître les productions locales. Durant 2 semaines, les cadres, les conseillers et membres de l'institution vont mûrir des réflexions et faire des recommandations pour garantir la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Yacouba Katilé, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, il est au micro de Moussa Malé Sissoko.
La souveraineté alimentaire et nutritionnelle est d'abord et avant tout une production nationale et non des importations successives et ruineuses par les biais du commerce. C'est cette pratique qui a fait de notre pays le marché de l'agriculture des pays lointains, l'usage abondant d'engrais chimiques, ce qui fait de nous des dépendants aux industries d'engrais. La culture des fumures biologiques doit se faire au détriment des intrants, pesticides, herbicides ou de l'usage des semences modifiées. On doit aussi retenir l'élevage, la pêche, la cueillette, pour que les populations produisent maliens et consomment maliens en quantité et en qualité. Il nous faut des investissements, des transformations et des conservations.
De Bamako, nous nous rendons à Menaka où les vols humanitaires ont repris ce matin sur la ville. La quasi-totalité des bagages transportés sont des produits pharmaceutiques. Notons que les médicaments se font rares dans la ville de Menaka depuis l'embargo décrété par des hommes armés le 10 janvier dernier. Je vous le disais dans les titres, de nos jours, les arts martiaux attirent de nombreux enfants. Les centres dédiés à l'apprentissage de cette discipline sont bondés par les enfants et si pour certains c'est de pouvoir se défendre, pour d'autres c'est le choix des parents. On en sait davantage dans ce reportage signé Bakary Diallo.
Il est 18h ce samedi 20 janvier. Nous sommes au centre d'urgence Club des 1008 logements. Une quarantaine d'enfants s'entraînent en suivant les instructions de leur maître. Pratiquant tous le taekwondo, ils nous expliquent leur choix pour la discipline.
J'ai choisi le taekwondo pour apprendre à me défendre quand je suis en danger.
Au début, c'était juste pour faire un sport parce que mes parents trouvaient que je ne faisais pas assez de sport à la maison.
J'ai choisi les arts martiaux car mon grand frère était au bout de s'inscrire.
Les arts martiaux ont un impact important sur le développement personnel de l'enfant. C'est ce qu'affirme Maître Moussa Soussou, instructeur à l'urgence Chamaz Club.
Ça l'aide à avoir la confiance en soi, la maîtrise de soi et le respect envers les autres. Quand un enfant fait les arts martiaux, il pense que moi maintenant je ne dois pas trop avoir peur. Et l'esprit de compétitivité, ça règne tout le temps.
L'inscription des enfants dans les arts martiaux vise à vaincre la couardise et développer l'esprit de combativité chez l'enfant, selon certains parents.
Le journal de la CAN, suivez l'actualité de la CAN sur Studio Tamani.
Cannes Côte d'Ivoire 2023, il ne reste que 4 équipes qui prétendent remporter le trophée le 11 février prochain. Ce mercredi 7 février, le Nigeria affrontera l'Afrique du Sud à 17h et un peu plus tard dans la soirée, la Côte d'Ivoire sera face à la RD Congo à 20h. Un résumé du parcours de ces équipes avec Ousmane Nyalibouli.
Pour cette demi-finale de la 34e édition, on verra une affiche entre la Côte d'Ivoire et la RD Congo. Après avoir passé les Caps maliens, les éléphants affrontent les léopards qui ont de leur côté écarté le Sili national de la Guinée. Cette rencontre sera la 6e confrontation entre les deux pays dans l'histoire de la CAN. Le Nigeria, avec 3 titres de la CAN, tentera d'aller en finale face à l'Afrique du Sud. Cependant, une inquiétude se présente à l'attaque nigériane. Selon un communiqué de la fédération nigériane, Victor Osimhen est blessé et n'a pas fait le voyage avec ses coéquipiers pour la demi-finale. Malgré l'incertitude du Ballon d'Or 2023, le Nigeria reste favori selon certains observateurs. Ils seront face à l'équipe sud-africaine qui a créé la surprise en battant des équipes telles que le Maroc. Avec un esprit d'équipe et une défense solide, les Bafana Bafana se montrent déterminés à contester le favoritisme du Nigeria.
Le consultant sportif Mohamed Soumaré pense que ces deux demi-finales seront très décisives. Selon lui, le changement d'entraîneur a été la chance principale des éléphants. Il souligne que l'équipe ivoirienne ne facilitera pas la tâche à son adversaire de la RD Congo. Mais à ce stade de la compétition, il est susceptible de s'attendre encore à des surprises. Il est au micro de Lalaïcha Walletinfa.
Juste après la défaite contre la Guinée équatoriale, l'équipe ivoirienne, il y a eu un changement d'entraîneur et on sait les changements d'entraîneur amènent tout le temps un électrochoc. Ça booste l'équipe. Maintenant, face au Sénégal et face au Mali, l'équipe a joué 120 minutes de jeu et l'équipe se retrouve avec 4 joueurs suspendus. Donc à ce niveau, c'est pas du tout évident. Mais une chose est sûre, c'est sûr qu'ils vont pas rendre la tâche facile à la RDC. Parce que on l'a vu, c'est une équipe qui a une grosse débosse d'énergie et qui si elle sait sur le plan technique qu'elle est limitée, elle vous laisse le ballon et vous faites le jeu et ensuite, voilà, elle a du répondant sur le plan physique et surtout sur le plan mental.
Des amoureux du ballon rond estiment quant à eux aussi que ces affiches seront serrées dues à la performance des 4 équipes. Ils ajoutent aussi qu'on peut s'attendre à de beaux spectacles. Khalifa Goïta, avec l'appui de nos correspondants, a recueilli des avis à Bamako, Yoroso et Kadjolo.
Le Nigeria va gagner. C'est une bonne équipe. La RDC va l'emporter contre la Côte d'Ivoire parce que le milieu ivoirien n'est pas bon.
La Côte d'Ivoire va gagner. Les joueurs sont bons et talentueux.
D'ici à Irosso, la CAN joue en faveur des plus chanceux. J'ai l'impression. La Côte d'Ivoire a une très bonne lancée. L'Afrique du Sud, le Nigeria, ça se jouera dans le détail. Ce sont de très bonnes équipes. Moi, je vois la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud en finale.
Pour moi, la finale sera entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Ces deux équipes sont les meilleures.
Ça va être demi-finale, bien entendu, avec d'enthousiasme. Pas des équipes favoris. Comme on le dit, aucun match n'est gagné d'avant.
Je suis à Kadjolo. Cette CAN est une édition de surprise. Les matchs seront beaux à voir.
La CAN en une anecdote, nous replonge aujourd'hui dans les souvenirs de la CAN 2002 au Mali. Incognito, Payous Ndiéfi se révèle pour sa première apparition et fait dormir Bamako. Ziadata Maïga nous fait le récit.
Le 7 février 2002, le Mali affronte le Cameroun en demi-finale de la CAN que le pays organise. Alors que tout le monde attendait et se méfiait des joueurs comme Patrick Mboma et Samuel Eto'o, un joueur sort de nulle part et plonge le public malien dans la tristesse. Il s'agit de Payous Ndiéfi. Ce bout d'homme camerounais, presque inconnu de tous, sème la terreur dans la défense malienne, également surprise et dépassée. Petite de taille, mais vivace et insaisissable. Ndiéfi se joue des colosses défenseurs maliens. Il est à l'origine des deux des trois buts des Lions indomptables. Depuis, son nom est resté dans la tête de tous les Maliens.
Et c'est cette anecdote qui met fin à cette édition qui vous a été présentée par Juliette Koulibaly. Salim Djouara assurait la technique. Juste après le magazine, vous pourrez suivre la rediffusion du Grand Dialogue du 27 décembre dernier, dont le thème est « Comment briser le silence autour des erreurs médicales ». Ne décrochez surtout pas dans un instant le magazine. Mutilation génitale féminine, la pratique recule-t-elle vraiment au Mali? On en parle dans le magazine Toutes les femmes du Mali, une réalisation de Aissata Diarra avec le concours de nos correspondants dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines ce mardi 6 février 2024.
J'ai arrêté de pratiquer l'excision sur mes enfants parce que ça cause beaucoup de conséquences médicales, santé, il y a même au niveau sexuel aussi, il y a beaucoup d'inconvénients.
Ici, Assitan Sidibé, ex-exigeuse à Koulikoro. Comme elle, plus de 300 villages ont abandonné la pratique de l'excision depuis 2022 dans la région. Philippine Traoré occupe le poste du chef de l'unité suivi évaluation à la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille.
En 2022, il y a ce qu'on appelle 216 villages d'abandon de mutilation génitale féminine et excision. Il y a eu 12848 déclarations publiques de soutien à l'abandon des mutilations génitales féminines et excision qui ont été faites par les religieux et les communautaires.
Là, en ce qui concerne les données de 2023, les compilations sont toujours en cours, mais à la date d'aujourd'hui, on a 110 villages d'abandon.
Les évaluations montrent que d'autres avancées ont été enregistrées au Mali dans le cadre de la lutte contre les mutilations génitales féminines. L'association malienne pour le suivi et l'orientation des pratiques traditionnelles ONG AMSOPT fait cas d'au moins 1000 villages qui ont renoncé à l'excision. Brahima Balou est le responsable du programme.
Selon une estimation du programme national de lutte contre les violences par ici, les gens, il y a au moins 1700 communautés villageoises au Mali qui ont abandonné la pratique de l'excision. Mon association des CAI, en passant par Koulikoro, Nara, Diema, Yelemani, Kangaba, nous avons au moins 200 villages d'abandon qui ont été arrêtés.
Mais attention, l'excision n'est pas abolie au Mali. Au contraire, la pratique reste répandue dans plusieurs endroits du pays, prévient Brahima Balou de l'ONG AMSOPT.
Nous savons que ça continue. Selon la dernière enquête démographique et de santé, 74% des filles de 0 à 14 ans sont excisées au Mali. Et 89% des femmes-filles de 15 à 49 ans sont concernées par la pratique de l'excision au Mali. Cette pratique concerne les milieux ruraux comme les milieux urbains.
Au sud et au centre du pays, des citoyens témoignent d'une pratique clandestine de l'excision dans leur contrée. Mais certains affirment qu'elle est vraiment en recul par endroits.
Ici à Kourou, il y a eu beaucoup de sensibilisation sur l'excision. Je crois que la pratique a beaucoup diminué.
C'est toujours pratiqué.
surtout dans les milieux ruraux.
Maintenant, les mutilations génitales féminines, malgré les sensibilisations, c'est une pratique qui se fait en cachette.
Cette pratique-là se fait toujours dans la ville, hein. C'est en 12D.
Pourtant, les spécialistes de santé indiquent qu'une fille mutilée peut être exposée à de multiples dangers. Docteur Mamadou Guédjou Makone, gynécologue.
Il y a une douleur vive. Généralement, après l'excision, les chocs hémorragiques, l'enfant peut saigner. Abondamment, il peut avoir une rétention d'urine de l'enfant. Ça va causer une plaie au niveau de l'appareil génital externe. Bon, surtout les complications liées surtout à l'accouchement. Tu vas voir qu'au cours de l'accouchement, il peut avoir des déchirures partout. On peut causer même le décès. Le traumatisme psychologique, c'est encore grave.
Ce 6 février est célébrée la journée internationale de tolérance zéro à l'égard de mutilations génitales féminines. Mais les festivités au Mali ont été reportées à une date ultérieure, selon le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Cependant, les organisations non gouvernementales entendent intensifier la lutte pendant cette période. Fin de ce magazine à toutes les femmes du Mali. À la semaine prochaine pour un autre numéro.